Bon, mais je vous remercie à mon tour et je remercie David Dussault et Réséda donc, de me permettre de vous parler donc, de l'autorité, qu'on puisse réfléchir sur cette notion. Alors, je vais essayer de parler assez fort pour me faire entendre, pas trop pour ne pas troubler la digestion, parce qu'on sort du repas. Voilà, il faut que je trouve cet entre-deux au niveau sonore, je vais essayer. Alors, la notion d'autorité, elle a ceci, enfin, elle a plusieurs particularités, mais elle a de particulier que le fait de la. Enfin, comment dirais-je? Quand on s'exprime sur l'autorité, immédiatement, celui qui le fait est placé en situation d'autorité. Voilà, je veux dire que le fait de parler d'un thème, de s'adresser à un auditoire, c'est déjà en quelque sorte faire acte d'autorité, puisqu'on présuppose que celui qui le fait a quelque chose à dire, qu'il a une connaissance, une expertise, qu'il a quelque chose. Donc voilà, le fait de parler d'autorité, déjà, pour le dire à la façon de Bourdieu, mais c'est déjà faire acte d'autorité, si je puis dire. C'est un bon, premier préalable peut-être que je voulais faire. Alors le deuxième, pour être un petit peu orthodoxe quand même, c'est de regarder l'étymologie. Voilà, pour être un peu rigoureux, donc de la notion d'autorité. Donc l'étymologie, là je vais regarder un petit peu mes notes parce que je connais pas par cœur, mais autorité vient de auctoritas, enfin le terme qui vient lui-même de auctor. Auctor qui a donné auteur. Enfin, ces choses-là sont connues. Hein, mais donc alors, auctor, si on regarde l'étymologie du terme, auctor, ça désigne donc à l'origine, d'une part, un fondateur, un instigateur, un conseiller, un garant, un vendeur ou un possesseur, d'une part, et d'autre part, l'auteur, le responsable d'une œuvre. Voilà, donc la deuxième partie est plus parlante. On voit que la première est assez disparate, assez confuse, et le sens a un petit peu disparu aujourd'hui. Mais auctor, au départ, voilà, ça désigne cela. Et auctoritas, donc la notion a elle aussi plusieurs sens. Et parmi ces sens, qui sont aussi nombreux, je regarde encore une fois, donc auctoritas, donc il y a l'idée, il y a le pouvoir d'imposer l'obéissance, bon, c'est quelque chose qui nous parle, pouvoir d'imposer l'obéissance, et d'autre part le sens de crédit d'un écrivain, crédit d'une œuvre, crédit au sens de légitimité. Voilà, donc ce tout petit, enfin ce premier regard, ce premier préalable, disons, étymologique ou généalogique, nous montre que la notion d'autorité, pardon, dès le départ, elle a des sens variés et que elle laisse planer un petit coup d'incertitude, quoi. On ne sait pas trop de quelle façon la cadrer, si je puis dire. La notion d'autorité aussi, elle a donc en plus d'être polysémique, d'avoir plusieurs sens, ce qu'on vient de voir, elle a aussi de particulier, alors c'est pas la seule, mais elle a aussi de particulier de pouvoir être connotée négativement ou positivement. C'est-à-dire que l'expression, par exemple, de dire parler avec autorité, alors parler avec autorité, si c'est quelqu'un qui a notre agrément, c'est quelqu'un qu'on aime bien, parler avec autorité, on va dire oui, on comprend, parler avec autorité, ça veut dire savoir de quoi l'on parle, ça veut dire c'est quelqu'un qui s'exprime sur la base d'une expérience, d'une connaissance, d'une expertise, voilà, il parle donc avec autorité, il sait ce qu'il dit. Et à contrario, si c'est quelqu'un qu'on apprécie moins, ou envers qui on a plus de raison d'être suspicieux, on va dire parler avec autorité. Oui, ben ça veut dire être péremptoire, être cassant, être sec, ne pas laisser la part au dialogue. Ça veut dire, sous couvert d'arguments rationnels, vouloir imposer des vues tout à fait subjectives et partiales. Voilà, la même expression, finalement, peut être cadrée très différemment, positivement ou négativement. Et de toute façon, je crois qu'on. Voilà, encore une fois, cadrage, enfin, dans le sens d'Erving Goffman, mais la notion d'autorité, on ne peut pas. On ne peut pas le trancher la question en disant, bon, on réfléchit un peu dessus et au sortir de la réflexion, ben voilà, le vrai sens, c'est celui-là. Il n'y a pas de vrai sens, encore une fois, c'est vraiment en fonction du contexte, et le même mot peut désigner des réalités différentes. Alors, malgré tout, pour ne pas quand même me satisfaire de cette facilité, pour pas qu'on soit dans une espèce de flottement ou d'incertitude totale, bon, on va quand même essayer de s'entendre sur le sens que je vais y donner, qu'on va y donner à cette notion d'autorité. Donc, je me référerai d'une part à des auteurs classiques et puis à des sociologues plus contemporains. Mais alors, pour des auteurs classiques, donc Durkheim, Weber et Hannah Arendt, Durkheim et Weber sont contemporains, Hannah Arendt. Et décédé il y a moins de temps qu'eux. En gros, alors ils ne le font pas, je m'autorise, je me permets d'amalgamer ce qu'ils en disent, mais Weber, Durkheim et Arendt, avec des nuances, mais nous disent en gros, dans Durkheim et Weber le font au début du XXe siècle, nous disent en gros, l'autorité, ce n'est pas la force pure, ce n'est pas le pouvoir pur, c'est le pouvoir qui rencontre l'agrément, l'adhésion de celui envers qui il s'adresse. Voilà. il faut qu'il y ait cela. Bon, ils s'entendent pour dire, et Arendt également, pour dire, voilà, l'autorité, c'est pas la force pure, c'est pas le pouvoir en tant que tel. Il faut qu'il y ait une adhésion, il faut qu'il y ait l'agrément d'autrui. Et de façon donc plus contemporaine, donc Éric Préra et Bruno Robe, donc qui sont deux chercheurs en sciences de l'éducation, qui travaillent sur la notion d'autorité, ont proposé l'un et l'autre, alors je ne sais pas qui des deux a la paternité, mais ce n'est pas très important, ont proposé l'un et l'autre la notion d'autorité éducative. Alors, ce qui tombe bien, puisqu'on s'intéresse à l'autorité qui concerne des jeunes. Donc l'un et l'autre ont proposé cette notion d'autorité éducative. Alors là encore, hein, je me permets le coup de force d'amalgamer ou de synthétiser leur pensée, parce qu'elle n'est pas radicalement opposée de toute façon. Donc ils nous disent, donc si je, encore une fois, si je rassemble leurs deux approches, ils nous disent l'autorité éducative, donc c'est celle qui agit dans un but libérateur, émancipateur pour le jeune. Donc l'autorité n'est pas une fin mais un moyen. Autorité éducative, donc il faut qu'elle soit reconnue et acceptée. Donc là on retrouve finalement ce qui était la conception de la conception initiale, si je puis dire. Et autorité éducative, donc, c'est celle qui doit viser le long terme et la durée. Voilà, donc qui s'oppose simplement à la réaction immédiate. Il faut qu'il y ait l'idée qu'elle ait un but et qu'elle s'inscrit dans la durée, cette autorité éducative. Voilà, donc pour la suite de mon propos, donc je vais, quand je dirai autorité éducative, je ferai référence à ça, et puis quand je dirai autorité en général, bon, voilà, ce sera ce que j'ai dit précédemment, à savoir la demande, le pouvoir qui rencontre l'adhésion le plus souvent, plus ou moins. Mais malgré tout, pour conclure sur cette première partie donc de présentation étymologique ou généalogique, notre attention peut être attirée par la nécessité ou par l'intérêt qu'ont vu les sociologues les sociologues contemporains, donc Bruno Robe, Éric Préra, d'ajouter la notion et le qualificatif éducatif. Ce qui déjà nous laisse dire, ce qu'on sait, mais ce qui nous laisse dire, peut-être que la notion d'autorité, elle dérange un peu. Peut-être qu'elle a quelque chose qui accroche un peu dans nos sociétés démocratiques. Peut-être qu'elle embarrasse un peu. Et qu'on ajoute le qualificatif éducatif pour l'adoucir, pour la cadrer gentiment, pour rassurer, voilà. C'est peut-être pas un hasard non plus qu'Éric Préra, par exemple, vous connaissez peut-être, est connu pour travailler sur la notion de sanction éducative. Voilà, c'est évidemment pas anodin non plus, parce que si on dit sanction en tant que telle, tout le monde est d'accord sur le principe, il en faut, c'est éducatif, etc. Mais quand même, ça embarrasse un peu, ça gêne un peu. Alors, quand on dit éducatif, déjà, ça, voilà, ça adoucit un peu les choses. Bon, voilà ce que je voulais dire en guise de présentation. Les deux aspects donc, que je vais aborder maintenant, c'est d'une part l'autorité dans le cadre familial, donc des parents en direction de leurs enfants, en direction des jeunes, et puis dans une seconde partie, l'autorité à l'école, enfin dans l'enseignement secondaire en tout cas. Pour introduire donc l'autorité donc au sens, enfin dans le cadre familial, la société de référence, si je puis dire, qui nous intéresse, bon, c'est quand même la France, hein, soyons sérieux, c'est la nôtre. Je crois que pour comprendre comment ça se passe aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie d'un petit rappel historique de l'évolution de cette notion d'autorité dans la famille, et même de la place de l'enfant dans la famille. Alors ça m'arrange parce que la place de l'enfant dans la famille, il y a un ouvrage de référence qui est celui de Philippe Ariès, qui s'appelle « L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime ». Donc un ouvrage qui est très connu, qui a été critiqué aussi, mais enfin bon, qui est un ouvrage de référence. Et Ariès, donc, qui est historien, nous dit, sa thèse principale, c'est de remarquer l'émergence d'un sentiment de l'enfance, qui s'affirme au XVIIe et au XVIIIe siècle surtout, à partir de là. Voilà, l'émergence d'un sentiment de l'enfance, qui n'était pas avant, sentiment de l'enfance, pardon, qui émerge en même temps qu'un souci de l'hygiène, et de la santé physique, et d'un relatif contrôle des naissances, et d'une moins forte mortalité. Je veux dire par là que tous ces éléments concourent à l'idée que l'enfant est davantage investi, pour être cynique, parce que les chances qu'il vive plus longtemps sont plus grandes aussi. Voilà. Mais donc, voilà, cette émergence du sentiment de l'enfance, donc que note Philippe Ariès, comment le dire, c'est-à-dire qu'il... je ne sais pas si c'est une rupture, mais enfin ce passage-là, c'est le moment où on commence à ne plus simplement considérer l'enfant comme un adulte en miniature. voilà, qui on commence à se dire, c'est un individu particulier avec des raisonnements particuliers, un fonctionnement particulier, et pas simplement un adulte en plus petit. Il y a voilà cette première transition à ce moment-là. Alors de façon plus récente, donc François Tsangui, qui est un sociologue contemporain, nous dit lui que les sociétés de la première modernité, donc de la fin du 19e jusqu'au milieu du 20e, donc François Tsangui rappelle et souligne que donc dans les sociétés de la première modernité, la socialisation se résume, ou enfin en tout cas est largement caractérisée par l'apprentissage des règles, l'autorité et l'obéissance. Voilà, la socialisation se résume quasiment à ça, c'est-à-dire que l'enfant n'a pas tellement loisir enfin, n'est pas tellement autorisé à demander des arguments, si je puis dire, des justifications. La socialisation, c'est essentiellement cela. En revanche, donc un tournant que note encore François de Tsangui, donc il nous dit, je le cite, hein, le grand tournant de la seconde modernité, donc les années 60. Donc il rappelle ce moment-là, donc d'autres bien sûr l'ont fait, mais lui le rappelle. Et François Tsangui, donc par exemple, nous dit donc, sous l'influence de psychologues tels que François Zolto, le regard des enfants se modifie profondément donc, dans les années 60. Donc Dolto, effectivement, Dolto, c'est un mot qui claque, enfin tout le monde, ça dit quelque chose à tout le monde, et évidemment. Donc l'influence de Dolto en France, oui, qui dit. Alors pour le coup, bien plus fortement que la fameuse émergence du sentiment de l'enfance, mais Dolto qui dit, qui assène et qui rencontre un écho, et qui convainc, qui dit l'enfance est très important, on ne doit pas le mentir, on doit le respecter, on doit comprendre qu'il a un fonctionnement propre, voilà, qu'il a tout cela. Donc les années 60, donc l'influence de Dolto, les années 60 qui sont aussi celles à partir desquelles se développe et s'affirme la scolarisation de masse, pardon, dans l'enseignement secondaire, bien sûr, le primaire s'est réalisé depuis les lois Ferry, mais les années 60, donc on commence, enfin la scolarisation dans le secondaire devient de plus en plus forte, donc le temps de l'adolescence s'affirme et s'allonge, si je puis dire. Il y a le début de ce qu'on a appelé une culture jeune dans les années 60 aussi. Alors à l'époque, c'est salut les copains et c'est les yéyés. Mais voilà, les années 60, c'est ce moment-là, l'affirmation d'une culture jeune avec des goûts musicaux, avec des vêtements, avec des jeux propres à une génération. Et encore une fois, voilà, le fait que enfin, ça se passe là, c'était impensable un siècle plus tôt, par exemple. Mais là, il y a affirmation d'une culture jeune. Donc dans les années 60. Et parallèlement à ces faits, je ne sais pas si on peut dire ces faits de société, j'aime pas beaucoup l'expression, mais enfin bon, à ces évolutions dans la société, il y a aussi des évolutions juridiques. Bon, c'est pas très étonnant non plus. Le social pousse, enfin, et entraîne à des modifications juridiques au bout d'un moment. Donc on sait qu'en 1970, l'autorité parentale remplace la puissance paternelle et la notion de chef de famille. Bon, ce qui n'est pas rien quand même, de 70, c'est quand même pas si vieux. En 75, donc, c'est la loi sur le divorce par consentement mutuel. Alors, le divorce par faute est maintenu, mais le divorce par consentement mutuel donc, est institué. En 89, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant qui est adoptée par les Nations Unies. Ce qui, dans 1989, s'est ratifié par la France un an plus tard, 2 ans plus tard, mais c'était une façon de dire et de proclamer que l'enfant devient un sujet de droit. Voilà, donc sous l'angle juridique, on marque cette idée que l'enfant est un sujet de droit, donc que sa voix a un poids, pour le dire comme ça. Voilà, donc comment dirais-je? Pour essayer de reprendre, synthétiser enfin, les quelques repères que je viens de citer là, mais on voit finalement, donc à partir des années 60, de mai 68, des années 70, qu'il y a un ensemble d'évolutions qui reconnaissent finalement, qui reconnaissent davantage l'importance des individus comme des sujets, et pas seulement comme les membres d'une société. Je veux dire par là que cette émergence, enfin que ces droits reconnus, que ces divers droits reconnus, ça déstabilise l'ordre social traditionnel. C'est-à-dire que quand on est figé dans un rôle, dans une fonction sociale, qu'on est le fils de ses parents avec un destin social tout tracé par ses parents, ou quand on est marié et marié pour l'éternité parce que c'est comme ça et qu'on ne bouge pas, l'ordre social est plus apaisé, si l'on peut dire, enfin en tout cas officiellement. Quand on reconnaît aux individus, c'est-à-dire que, par exemple, le truc du divorce, c'est de dire, on reconnaît que votre bien-être personnel est important, au risque, encore une fois, de troubler l'ordre social par une multiplication des divorces, des familles recomposées, etc. On reconnaît davantage les personnes comme des individus et on dit en substance, votre bien-être à titre individuel, votre bien-être de sujet, votre sentiment, votre bonheur, votre épanouissement, ça compte aussi. Le poids devient plus important. Dans la société traditionnelle, c'est moins ça. Ce qui compte d'abord, c'est l'ordre social, si je puis dire. Donc voilà, ça vaut pour les adultes et pour le coup, pour les enfants. Et pour les enfants, c'est aussi ça, puisque encore une fois, n'oublions, enfin voilà, les enfants qui deviennent sujets de droit, les enfants, j'allais dire, les enfants de Dolto, enfin, les enfants associés à l'approche de Dolto, il y a aussi cette idée-là. C'est ce qui explique, enfin, aujourd'hui, nos oreilles seraient heurtées d'entendre, enfin, oui, d'assister à une scène durant laquelle des parents diraient à l'enfant, tu feras plus tard tel métier et tu te marieras avec telle personne parce que tu es l'aîné et que c'est bon pour la famille. Il y aurait quelque chose qui nous dérangerait, quoi. Alors ça peut être dit, mais d'une autre façon. Enfin, en tout cas, sur la forme, ça ne peut pas se dire comme ça. Voilà, on peut avoir des espérances, mais ça ne peut plus tellement se dire comme ça, quoi. Ça heurte les oreilles. Bon, pour conclure sur l'ensemble de ces rappels, enfin de ces petits repères sociaux et ou juridiques, Marcel Gauchet, par exemple, philosophe, nous dit que finalement, pour lui, non seulement l'affirmation, la reconnaissance de la subjectivité de l'enfant, mais même l'évolution est telle que l'enfant est devenu le centre de gravité de la famille, selon Marcel Gauchet. Il n'est pas le seul à le dire et le penser, mais voilà, les choses sont telles que l'enfant est devenu, n'est plus seulement un membre à part entière reconnu de la famille, il en est même devenu le centre de gravité, et peut-être le centre affectif, voire la justification de la famille, si je puis dire. Enfin, il a acquis une importance centrale, l'enfant. Et pour le coup, et on va le voir, là je rentre vraiment ensuite, hein, je vous rassure dans le vif du sujet, et pour le coup, évidemment, cette place centrale, elle a une importance et elle influence la manière dont l'autorité des adultes va s'exercer sur cet enfant central. Voilà, donc par opposition donc, à l'autorité traditionnelle, donc de la société traditionnelle à laquelle je faisais allusion, enfin, la formule dont, en tant que parent, on a mauvaise conscience, enfin, qu'en tant que parent, on a mauvaise conscience d'utiliser, c'est tu fais ça ou tu fais pas ça parce que c'est comme ça. Elle ne peut pas disparaître, parce que ça ne peut pas être. Bien sûr qu'elle existe. Mais tout parent qui se respecte, si dans un intervalle d'un quart d'heure, il a dit 12 fois à son fils ou à sa fille, parce que c'est comme ça. Normalement, il va avoir mauvaise conscience en se disant, mais quand même, il n'y a pas d'argument, c'est pas bien, quoi. Et pour le coup, alors, ce qui est à l'opposé de cette formule sèche et non argumentée, donc parce que c'est comme ça, tu fais pas ceci parce que c'est comme ça, ou tu fais ceci parce que c'est comme ça, il y a, enfin, on me semble avoir remarqué, il y a une tendance à l'ultra-argumentation ou à l'ultra-dialectique. Alors pour me faire comprendre, je donne un exemple, beaucoup d'exemples vaudraient, hein, mais par exemple l'enfant il va courir avec un verre à la main et le père ou la mère il va faire une mini dissertation orale de 5 minutes pour lui expliquer oui parce que tu comprends et moi je te propose plutôt alors pose-le parce que si tu le poses pas mais tu vois et ton frère et ta sœur et si tu tombes et, voilà il peut y avoir on peut assister comme ça à des choses ou pour des événements qui appellerait une argumentation de 20 secondes, on peut assister à des argumentations de 2 minutes et demie. Je cite cet exemple-là encore une fois, mais d'autres pourraient être cités. Donc du coup, alors, on peut essayer de se dire, enfin, d'analyser cette tendance à l'ultra-dialectique qui peut se manifester. Alors on peut se dire pourquoi il en est ainsi. Alors, les éléments possibles. D'une part, enfin, il me semble, parce que c'est pas coûteux sur le plan psychique d'être pédagogue, de dérouler des raisonnements. C'est un rôle rassurant, agréable. Bon, voilà, on fait un peu de pédagogie, c'est gentil, ça nous heurte pas. Bon, c'est bien. Deuxièmement, c'est pas mal parce qu'en fait, en procédant ainsi, on prépare déjà un peu l'enfant à l'école, puisque l'habitude de l'argumentation, on sait que l'école la demandera et la valorisera. Donc, bon, finalement, on fait de la pédagogie à la maison, voilà, c'est bien pour l'enfant, c'est bien pour l'école, c'est bien pour la suite. Bon, tout va bien. Argumenter longuement, enfin argumenter, donc ça fait écho aussi à ce que prescrit, j'allais dire, Dolto. Enfin, en tout cas, on reconnaît l'enfant comme un sujet. Enfin, on en donne les signes, en tout cas. On fait même mieux, puisque plutôt que d'argumenter, on ultra-argumente. Donc, on se dit, bah, c'est même mieux, quoi. Enfin, on fait du zèle. Tout ça est très bien. Pour être un peu cynique, bon, sur le plan dialectique, on est à peu près sûr de gagner, quoi. Parce que quand on fait de la dialectique normalement qu'un enfant de 5 ans, bon, on se dit quand même, j'ai pas tellement de chances de perdre, quoi. Enfin, normalement, je vais gagner, quoi. Alors, quelquefois, les enfants sont surprenants. Ils vont sortir un truc, dire, mince, ça c'est le grain de sable dans le rouage. Moi, j'étais sur ça, et mince, il m'attaque par ce côté-là, j'y pensais pas. Mais enfin, quand même, bon, normalement, on ne prend pas un risque considérable. Bon, normalement, on est sûr de gagner, quoi. Mais le dernier facteur, enfin, le dernier, je sais pas s'il y en a peut-être d'autres, mais un facteur quand même qui me semble important de considérer, c'est que quand même, avec l'ultra-dialectique ou l'ultra-argumentation, on se protège un peu de sa propre commande, si je puis dire, de son propre refus ou de sa propre demande. C'est-à-dire qu'on la dissimule derrière une logique rationnelle. C'est-à-dire, on dit en substance, c'est pas tellement moi qui te contrains ou qui exige quelque chose de toi, c'est la raison. Voilà, c'est la rationalité, quoi. Moi, je suis à la limite, je suis un messager, mais c'est presque pas moi, quoi. Tu comprends bien, enfin, c'est la nécessité objective, quoi. C'est la raison, c'est pas moi. Voilà, donc il y a ce truc, je crois, quand même, voilà, de pas vouloir jouer le méchant apparent, quoi. Enfin, de dire, encore une fois, c'est la raison qui commande le comportement, mais c'est pas tellement moi, quoi. Et ce truc-là, voilà, il me semble que c'est devenu, encore une fois, hein, pour des raisons qu'on peut essayer d'expliquer, mais c'est devenu quelque chose d'assez important, cette peur, cette crainte de ne pas être le méchant apparent, quoi. Alors, je pense qu'on peut le raccrocher au fait que, alors par exemple, François Dubé le fait, mais enfin, il le fait depuis longtemps, donc je vais le citer. Donc, François Dubé, par exemple, le fait et insiste sur ça, sur l'idée que, donc, j'y faisais allusion tout à l'heure, mais on est passé d'un mode de fonctionnement où on était, alors, c'est pas du tout une révolution, une rupture, hein, et on n'est pas passé de 0 à 100, le contraire, évidemment, hein, c'est une progressivité, mais on est passé sur un modèle où on était davantage ancré et fixé sur des fonctions sociales et sur des rôles sociaux, qui étaient un peu pesants parce qu'il contenait, mais en même temps, il n'exposait pas l'individu ou sa subjectivité ou son narcissisme, à un modèle où on est encore largement, très largement conditionné par le social, mais où on est davantage des individus, on a le droit de l'être. Et pour le coup, on quitte un peu l'armure du rôle social et de la fonction sociale. Mais quitter l'armure, ça veut dire aussi s'exposer davantage. Et c'est-à-dire que, justement, puisqu'on est plus exposé, puisque c'est davantage nous et notre subjectivité qui parlons, qui demandons, qui prescrivons, qui contenons, ben pour le coup, on s'expose davantage à être contesté justement sur un mode personnel et subjectif. C'est-à-dire, ben de refuser quelque chose ou de l'exiger. Ça peut appeler, ah oui, mais pourquoi, qu'est-ce que ça peut te faire? C'est toi qui es réac, c'est toi qui es obtus, c'est toi qui es antilibertaire, c'est toi qui es. Enfin, c'est ton caractère, quoi, c'est toi, il n'y a pas de. C'est pas objectif. Voilà, donc il me semble que cet élément-là est assez important. Encore une fois, on s'expose davantage et pour le coup, on rétropédale et on se protège davantage, enfin, on se protège de cette exposition. Voilà, d'abord par cette fameuse ultra-argumentation, mais je vais avancer d'autres exemples, mais qui me semblent encore une fois toujours procéder de cette logique-là. On est un peu mis à nu, on s'expose davantage et donc on se protège davantage. Alors là, l'ultra-argumentation, bon, elle utilise ou elle manipule des idées. Voilà, les trois modes comment dire, les trois modes de soustraction à sa propre autorité que je vais présenter maintenant. Bon, là, ils agissent sur les personnes, ils manipulent au sens neutre des personnes. Alors, je les appelle, mais c'est pas bon, d'un point de vue théorique ou épistémologique, c'est pas très solide. Hein, ce sont plutôt des formules. Hein, je le dis. Voilà, je les appelle autorité fatiguée, autorité feedback et autorité ventriloque. Donc, je vais donner des exemples à chaque fois. Mais encore une fois, c'est pour me faire comprendre, mais c'est pas très sérieux sur le plan épistémologique, hein. Je le dis. Donc l'autorité fatiguée, voilà la première manière donc de fuir un peu sa propre autorité. Alors vous devinez, vous voyez venir le truc, parce que c'est tout à fait marrant et banal et récurrent. Une scène dans n'importe quelle famille, enfin, ou à l'extérieur de la maison, bon, peu importe, l'enfant va avoir un comportement que les parents réprouvent, pour le dire, qui peut être d'une gravité faible ou forte, bon, et la réaction va être, par exemple, de dire « Ah oui, il est fatigué, ou tu es fatigué, ou tu es fatigué » à l'enfant. Alors bon, si on le regarde froidement comme ça, on peut dire « Oui, enfin, on voit pas, enfin, l'explication semble pas... semble pas total, quoi. On voit pas bien le truc. Donc là encore, se dire, mais qu'est-ce qui se joue? Enfin, pourquoi il est fatigué? Ouais. Alors pourquoi ce raisonnement-là? Enfin, cette chose-là? Mais d'une part, on peut se dire que ça peut être aussi en présence de témoins, ou simplement les deux parents, mais ça peut être aussi des amis, des gens présents, bon, qui changent un petit peu la donne, mais on peut se dire, celui qui dit ça, c'est une façon déjà de garder la face, de pas perdre la face. Parce qu'en faisant ça, on substitue à l'autorité active, si je puis dire, une autorité du diagnostic. C'est-à-dire qu'on recourt à une autre forme d'autorité, c'est-à-dire c'est pas l'autorité qui agit, qui fait arrêter le comportement, c'est l'autorité du savant. C'est-à-dire, c'est de dire, moi, je sais ce qui se passe. Voilà, il se passe ça, il est fatigué. Moi, je vous le dis, je connais mon enfant. voilà, il y a ce truc-là, quoi. C'est l'autorité de l'expert. C'est pour pas avoir l'air de regarder ses pieds, il faut bien faire quelque chose. Alors, dire... Comment ? Mais vous me cassez ma chute. Vous me cassez ma chute, c'est exactement ça. C'est exactement ça. La deuxième, enfin, on est tout près d'un énoncé performatif dans le deuxième élément explicatif, c'est-à-dire que où on le dit à l'enfant lui-même, tu es fatigué, ou on le dit à la troisième personne, mais il est juste à côté, on lui dit en substance, bon, sois vraiment fatigué, c'est-à-dire arrête-toi un peu, produis au moins des signes de fatigue, ça arrangera tout le monde, et éventuellement, s'il est un peu tard et que tu vas aller te coucher, franchement, ce sera pas mal, quoi. Voilà, donc je crois qu'il y a ce... donc voilà, je crois qu'il y a aussi cette logique-là de l'énoncé performatif, c'est-à-dire qu'on lui dit en substance, sois fatigué, enfin, apaise-toi, arrête-toi, quoi, ce sera pas mal. Et la troisième raison, et du coup, voilà, ma chute théâtrale est tout à fait, est tout à fait annulée, non, je plaisante... Et effectivement, voilà, on peut recourir je connais rien à la psychologie, mais à un mécanisme psychologique élémentaire qui est la projection. C'est-à-dire, en réalité, enfin, pourquoi le mot vient si vite? Parce que tu me fatigues. Enfin, oui, je suis fatigué. C'est les parents qui sont fatigués. Je crois. Mais d'autant plus, encore une fois, on peut pas l'évacuer de mon point de vue, on peut surtout pas l'évacuer en mettant ça sur le compte de faiblesse individuelle, de choses comme ça. Enfin, on est justement, encore une fois, sur un modèle de fonctionnement qui est l'argumentation, mais l'argumentation, enfin voilà, quand on pratique, c'est épuisant. Enfin, c'est un travail et ça fatigue réellement, je veux dire. Hein, c'est plus simple, l'autorité traditionnelle, le chef de famille qui tape du poing sur la table en disant « Maintenant, on se tait, tout le monde s'en va. » C'est plus facile. Et avoir à justifier souvent et de façon développée ses demandes et ses refus, c'est du travail aussi. Donc, voilà, donc c'est pas anormal qu'il y ait cette fameuse fatigue des parents avec le fameux « Voilà, tu es fatigué. En tout cas, tu me fatigues. » donc une autre forme, l'autorité, donc on peut appeler feedback, enfin il y aurait d'autres noms, hein, ce n'est qu'une formule, je le répète. Alors là encore, ça dépend bien sûr de la fréquence ou de la régularité, de la manière, enfin de la façon dont ça se passe. Est-ce que c'est souvent ou est-ce que c'est, est-ce que c'est tout le temps ou est-ce que c'est rarement, bon. Mais il y a la tentation, évidemment, de ne pas vouloir être le méchant apparent, de ne pas vouloir faire le sale boulot. Et en cas de demande qui gêne, de dire, va demander à ton père. Voilà, on va demander à ta mère. Oui, non, mais j'allais vraiment dire les deux. J'allais vraiment dire les deux. J'allais vraiment dire les deux. Alors, là encore, On dirait presque, bon, quelque part que c'est le jeu, bon, mais tout est fonction, encore, enfin, tout est fonction de la fréquence du truc. Si le découpage devient tel que y a celui qui doit tout le temps combattre et dire non, et l'autre qui se garde la part belle, entre guillemets, parce qu'elle ne l'est pas, mais qui se garde donc cette part la moins coûteuse. Bon, voilà, donc cette autorité feedback. Et je l'ai appelée autorité feedback parce qu'il y a un exemple qui est plus subtil ou plus riche et plus terrible. Ça va être, alors je vais donner un exemple, pour me faire comprendre, mais l'enfant qui réclame, je sais pas, qui réclame du gâteau, donc il réclame du gâteau à l'un des deux, donc l'un des deux, bon, non, on va bientôt manger, l'enfant insiste, bon, je t'en donne un petit peu, alors on lui en donne un petit peu. Et puis 5 minutes après, l'enfant redemande, etc. Donc bravement, celui qui a donné dit non, 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 là, non, on va manger, on arrête, etc. Et puis l'enfant demande à l'autre parent, et l'autre parent lui dit bon, je t'en donne un petit peu, mais après, ça, on arrête. Hein. Alors bon, après on arrête, ça veut rien dire parce qu'on a donc on n'a pas arrêté. Mais là, je veux dire, là en faisant ça, le message qui est adressé en substance, c'est pas seulement à l'enfant. Enfin, c'est-à-dire qu'à l'enfant, on lui adresse le message, oui, moi je suis le gentil. Mais on lui adresse aussi le message qui est de dire le vrai chef, c'est moi. Et je suis chef non seulement de toi, mais je suis chef de l'autre aussi. Parce que je ne dis pas que c'est forcément intentionnel, hein, je dis pas que c'est forcément intentionnel. Mais je veux dire, voilà, le message en substance que peut entendre l'enfant et que peut entendre l'autre, enfin le partenaire, il y a ça. C'est pas toujours à dessein, mais il peut y avoir ça, quoi. Bon, et la troisième forme donc enfin, troisième manière de se soustraire donc à sa propre autorité, donc que j'appelle l'autorité ventriloque pour m'amuser, mais là encore elle fait référence ou on peut l'associer très vite donc à des phrases qu'on vous allez voir qui résonnent tellement bien aux oreilles, qui sont le monsieur il veut pas, la dame elle va se fâcher, ou la dame elle veut pas, le monsieur il va se fâcher. Et voilà, donc alors bon, là encore, scène tout à fait banale. Donc on imagine dans un grand magasin, on est à la caisse, les parents, l'enfant est agité, alors il s'approche du présentoir, il prend des objets, il les met par terre, il grimpe sur le portique quand il vole, enfin il est bon, il est agité. Et on peut avoir donc les parents, et c'est intéressant quelquefois qu'ils regardent même pas, qu'ils ne regardent même pas l'enfant, et qu'ils vont dire donc Jordan, Lucie, enfin peu importe le prénom, arrête, le monsieur il veut pas, ou arrête, la dame va se fâcher. Bon, sur un ton peu convaincu en général. Et bon, alors bon, c'est enfin il se passe à peu près rien hein, pour l'enfant, enfin donc l'enfant du coup n'est pas ne ressent pas ça comme quelque chose de très important. Enfin, en tout cas, qui ne fait pas réagir. Mais là encore, bon, si on veut, enfin, allez, pour être un peu perfide, si on veut s'amuser, on peut se dire que dans ce type de situation, malgré tout, il arrive que enfin, si l'enfant ajoute des produits sur le tapis roulant qui vont passer à la caisse et être payés, il peut quand même y avoir une réaction des parents, un peu agacés, ils prennent le truc, ils reposent. Bon, parce que là, j'allais dire, ça s'ajouterait à la note financière immédiate. Il peut y avoir quelquefois, malgré tout, une petite réaction de ce type-là. Mais au-delà du clin d'œil, donc là encore. Dans une scène, voilà, comme ça, avec le fameux, donc, le monsieur il veut pas, la dame elle va se fâcher, etc. Bon, ce qui est dit à l'enfant en substance, ce qu'il peut ressentir quand même, c'est quelque part, ce que tu fais en ce moment, c'est pas bien, mais comme c'est à l'extérieur de la maison, ou comme c'est pas dans un lieu, bon, ben, quelque part, ça relève pas vraiment de mon autorité, puisque je te dis, c'est le monsieur ou c'est la dame. Donc, c'est une façon de dire, moi, j'ai pas tellement d'autorité sur cette dimension-là. Il peut y avoir aussi, il peut, hein, il peut y avoir aussi, bon, finalement, j'insiste pas beaucoup parce que ben, peut-être que je te crois pas tellement capable de te comporter bien, que je place pas beaucoup d'importance à la façon, enfin, au fait que tu te comportes bien, il peut y avoir ça. En pratique, donc, celui que je désigne comme autorité de substitution, donc le monsieur, la dame, bon, caissier ou caissière, donc il a, lui, enfin, lui ou elle n'a pas du tout d'autorité donc sur l'enfant. Donc du coup, il n'a pas non plus le droit de t'interdire d'agir ou de mal agir. Et du coup, bah, ça veut dire, dans certaines circonstances, enfin, encore une fois, je veux dire, c'est une scène ponctuelle, hein, ça ne dit pas l'état éducatif, ça ne dit pas l'ensemble des choses de la relation parent-enfant. Hein, je cible la scène, mais quand même, bon, la scène ponctuellement, ça revient à dire, en certaines circonstances, tu es autorisé, enfin, ton autorité à toi, elle est supérieure à celle de tous les adultes présents. Puisque moi, je t'ai dit que j'en avais pas, et que j'en donne une à quelqu'un qui n'en a pas non plus. Donc, ça veut dire, en certaines circonstances, le chef, c'est toi, quoi. Voilà. Alors, évidemment, hein, on comprend et on sait que c'est évidemment pas le message réel que les parents tiennent à délivrer à l'enfant. Mais on voit aussi que, que l'autorité en acte, pour des raisons diverses, mais elle peut s'éloigner pas mal des idéaux éducatifs vers lesquels voilà, tout le monde veut tendre. Et donc cet éloignement des idéaux éducatifs, donc là j'arrive à la partie l'autorité à l'école, donc à l'école aussi on est assez loin des idéaux éducatifs quelquefois. On aborde une autorité professionnelle, si l'on peut dire, dans le cadre des lycées et collèges, parce que je connais peu le niveau élémentaire, je le connais peu, mais collège lycée je connais un peu. Alors là encore, bon, je suis désolé, un petit préalable, quelques repères historiques pour comprendre, pour aider ou pour éclairer, pour comprendre pourquoi ça se passe comme ça aujourd'hui dans les établissements. Donc l'évolution de l'autorité dans le champ scolaire, l'une des caractéristiques majeures, écrasantes, très importantes, c'est évidemment la massification, puisque l'enseignement en secondaire, au départ, en gros, c'est le lycée napoléonien, donc du début du 19e. Donc lycée qui est très sélectif, discipline de fer, élitiste. Enfin, là, pour être sur la massification, on va retenir simplement élitiste, mais donc il y a à peine 1% d'une classe d'âge qui va au lycée et qui a le bac. Et ce sont évidemment les enfants de la haute société. Donc l'enseignement secondaire français, tel qu'il est conçu au départ, il va rester pratiquement inchangé durant un siècle et demi, jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. L'enseignement secondaire français donc, porte cette caractéristique, il en a plusieurs, mais d'être un enseignement très élitiste, réservé aux hautes couches de la société et aux rares élèves boursiers, c'est-à-dire aux très bons élèves. Voilà. Donc la massification, ce qui se produit dans la deuxième partie du XXe siècle, la date clé étant, on la connaît, c'est le fameux collège unique, donc c'est la loi Habit de 75 qui est appliquée à la rentrée scolaire 77, mais donc loi Habit qui dit tous les élèves issus de CM2 vont au collège et ensuite au lycée. Et encore une fois, pour un modèle scolaire qui avait pensé, qui a fonctionné très longtemps sur le mode élitiste et sur le mode d'une très forte sélection, se retrouver avec la quantité, si je puis dire, un grand nombre d'élèves, mais surtout dans ce grand nombre d'élèves, c'est pas que les bons élèves, pour le dire comme ça. Donc c'est une diversité d'élèves. Ça change considérablement la donne. Et ça la change d'autant plus que, même si les choses ont un peu évolué, disons que je prends pas un grand risque en disant que par rapport au changement que devrait induire la venue, la massification totale du secondaire, les changements effectivement réalisés sont un peu inférieurs. Voilà, ce qui devrait être fait, quoi. Mais voilà, j'ai essayé de le dire, de le faire comprendre. Voilà. Bon, le deuxième facteur donc d'évolution, qui influence donc l'autorité scolaire, c'est le rapport au temps. Alors Antoine Pro, Éric Préra par exemple, donc nous disent une contradiction qui est connue, hein, entre la valorisation du plaisir, des vacances, de l'immédiateté, du zapping, de l'hédonisme, qui est valorisé dans la société, oui et non, qui est valorisé dans la pub et dans les médias, mais dans la, au travail, non. Enfin, au travail, on retrouve. Le travail, je veux dire, n'est pas la sphère du plaisir, des vacances, etc. Hein, c'est pas ça, voilà. Parce que quelquefois, on va un peu vite en opposant l'école, la société, mais la société, pour le coup, dans la société, il y a quand même des gens qui travaillent. Et le travail n'est pas le royaume du plaisir, du zapping et de l'hédonisme, hein, forcément. Mais malgré tout, voilà, donc les deux chercheurs donc pointent la contradiction entre plaisir, vacances, immédiateté, zapping, hédonisme, qui existe dans des pans de la société, et les valeurs défendues par l'école, soutenues par l'école, qui sont la gratuité de l'effort, le travail, la cèse, le long terme, puisque bien sûr on ne devient pas fort en maths en deux jours, et que bien sûr on ne devient pas un être cultivé en une semaine. Voilà, donc il y a ce rapport au temps donc, qui est très différent entre des sphères de la société à l'extérieur de l'école et ce que l'école promeut ou soutient en son sein. Et un autre élément, donc qui a créé, enfin qui influence l'autorité scolaire, enfin qui porte sur son évolution, c'est sa plus faible utilité, la plus faible utilité de l'école, je veux dire. Alors François Dubé, par exemple, le remarque sur deux points, cette moindre utilité. Il le pointe d'une part d'un point de vue culturel, c'est-à-dire que bah, il rappelle que que si l'école a gardé le monopole de la culture académique, elle a perdu le monopole de la culture ouverte. Ben c'est-à-dire que, bon, au début du XXe siècle, ou même un peu après, l'école, elle avait ceci de formidable sur le plan culturel, c'est-à-dire qu'elle avait ses atlas, ses manuels, elle ouvrait sur le monde, elle nous racontait le monde, enfin, elle disait des choses du monde extérieur et du monde lointain qu'ignorait tout à fait l'enfant qui vivait dans son village et pour qui les repères étaient ceux de son village, mais qui n'avait pas tellement d'ouverture sur le monde. Et aujourd'hui, évidemment, les médias, Internet, etc., ouvrir sur le monde, on n'a pas besoin de l'école. Enfin, voilà, les sources disponibles sont abondantes et de ce point de vue, donc l'utilité culturelle de l'école, enfin, pour la culture ouverte, hein, je répète, évidemment, elle n'existe plus, quoi. Voilà, c'était l'idée, je vous jure la citation là, sous les yeux, voir plus loin que son monde domestique. C'est l'expression qu'emploie François Dubé, voir plus loin que le monde domestique. Mais encore une fois, on n'a pas besoin de l'école pour voir plus loin que le monde domestique aujourd'hui. Donc, une moindre utilité culturelle de l'école et une moindre utilité en termes instrumentaux aussi, puisque, bien évidemment, on le sait tous, mais quand dans les années 50, les années 60 encore, on est peu allé au lycée. En général, ça c'est Bourdieu qui l'a fait remarquer, Bourdieu et Passeron par exemple, mais bien sûr qu'on a tendance à dire que c'est pour la beauté du geste, qu'on est des gens de culture et que la culture c'est très bien, etc. Oui, mais en même temps, c'est pas mal aussi de se dire, je vais au lycée, on n'est pas tellement nombreux à y aller, c'est un tremplin social, et en sortant du lycée, je vais aller un peu à la fac et j'aurai un boulot, ben enfin je serai cadre sup, quoi, pour être un peu vulgaire, un peu trivial. Je vais occuper une position sociale élevée dans la société. L'école me promet ça. L'école est un tremplin social puisque j'y suis, on est peu à y être. Bon, ça promet beaucoup. Et évidemment, on sait aujourd'hui que cette chose-là est largement relativisée parce que. Alors, Goblot dirait, on est passé d'une logique de la barrière à une logique de niveau, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans aller au lycée, ne pas y aller, ou avoir le bac, ne pas avoir le bac. On est dans quel bac, quelle série, quelle filière et quelle mention. La ségrégation, le classement se fait maintenant de façon plus fine, bien sûr. Mais enfin, mais malgré tout, si on pousse le raisonnement au bout, de toute façon, quand bien même on a fait un bon bac S et qu'on l'a avec mention, si on n'a que ça, bon, les employeurs vont pas. Nous enverrons pas leurs chauffeurs pour venir nous chercher pour travailler chez eux, quoi. Parce que avoir le bac aujourd'hui, bon, ça devient, voilà, on est dans un certain ordinaire, quoi, si je puis dire. Bon, voilà, donc pour rentrer maintenant dans le quotidien des collèges et lycées, il y a quelque chose qui est un peu, enfin, qu'on peut repérer avant même d'écouter parler les acteurs. Enfin, si, on les écoute en parler aussi, mais enfin, ce qu'on pourrait appeler une physique de l'autorité. Bon, encore une fois, je le dis pour m'amuser, hein, c'est pas très solide sur un plan théorique, mais une physique de l'autorité, je veux dire, qui a trait à la communication non verbale. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est amusant, on peut remarquer une scène, par exemple, vous allez au bureau de la vie scolaire, donc le bureau des surveillants des CPE, et un surveillant va présenter un document à un élève pour qu'il regarde quelque chose, ou parle de quelque chose qu'il y a sur ordi. Et l'élève peut, sans provocation, peut faire le tour du bureau, faire se mettre à côté de lui pour lire le truc, voilà, côte à côte. Et je veux dire que ça nous dit quelque chose. Enfin, on sait bien que c'est pas la même chose de se parler vous voyez? C'est pas la même chose de se faire face avec un bureau qui sépare que d'être côte à côte, quoi. Et voilà, le fait qu'il puisse y avoir ce glissement, bon, c'est pas, il n'y a pas de quoi en faire une thèse, hein, mais le fait qu'il puisse y avoir ce glissement, quand même, il me semble que c'est un indice spatial déjà qui montre comment les choses ne sont plus aussi rigides et fixées qu'elles l'étaient auparavant. Et cela d'autant plus qu'on peut aussi s'amuser à considérer ou à remarquer que l'adulte, la réaction n'est pas non plus catégorique. Je dis ça parce que j'ai vu par exemple ce genre de choses. Et dans un cas, vous allez avoir un surveillant qui va dire non, 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 mais tu restes en face, etc. Et d'autres fois, bon, oui, Bon, qui dit rien, quoi. Voilà, ce qui montre que lui aussi, finalement, il est peut-être, il sait pas trop. Enfin, les choses sont moins évidentes. Enfin, rien n'est évident, mais les choses sont moins. Alors, il y a un autre exemple aussi par rapport au côté physique. C'est le, bon, voilà, le côté marrant. Prenez un lycée moyen, ordinaire, des élèves de seconde, donc nouveaux dans l'établissement, et vous avez CPE, adjoint, enfin quelqu'un qui rentre dans la classe. Voilà. Et alors, vous allez avoir une partie des élèves qui va se lever. Vous allez avoir une partie qui va se lever, qui va rester en suspension, parce qu'elle ne sait pas si c'est normal. Et puis, quelques-uns qui ne vont pas se lever. Voilà. Et là encore, parce que c'est quoi la norme? Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut pas? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est impératif? Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fait pas? Est-ce que ça se fait ici? Est-ce que ça se fait pas? Et là encore, ce qui est intéressant, c'est que l'adulte lui-même, il n'y aura jamais de réaction type. C'est-à-dire, vous aurez, pour garder la face, vous aurez le truc de dire non, non, mais restez assis, parce qu'évidemment, ça règle la question, comme ça. Bon, ça tombe bien, parce que de toute façon, ils n'étaient pas tous levés, parce que alors, s'il faut les faire tous se lever, on perd 5 minutes, et puis il faut le justifier. Donc, on peut dire, bon, vous restez assis, voilà, il y a ça. Ou il peut y avoir, non, non, levez-vous, non, non, tout le monde se lève, quoi. Mais là encore, ce qui est intéressant de considérer, c'est que les choses ne sont plus rigides et évidentes. Enfin, il y a, on est dans un entre-deux, quoi, un petit peu. Et le dernier exemple, donc, sur l'aspect physique sur l'aspect physique de l'autorité, non, pardon, l'avant-dernier, oui, sur la question physique quand même, enfin, il y a une chose. Alors, donc je ne peux pas rendre compte parce que par définition c'est un chiffre noir, bon c'est les sanctions physiques, bon, enfin c'est les gifles, bon, enfin c'est les coups éventuellement qui peuvent être portés aux élèves. Donc ça par définition, enfin ça bon, on n'a pas de chiffres, enfin ce sont pas des. C'est un chiffre noir, évidemment. Donc on ne peut pas tellement dire quelle est la réalité tangible de ce phénomène-là, mais enfin, c'est pas zéro, c'est sûr, parce qu'il y a quand même des enquêtes pas si éloignées, c'est pas zéro, c'est sûr. Après, donc là encore, donc, au-delà, donc. Là, je dirais que ça relève quand même, bon, de comportement individuel. Enfin, c'est pas le cas majoritaire. C'est pas le cas majoritaire. Voilà, c'est tout ce qu'on peut en dire, c'est que c'est pas le cas majoritaire. C'est pas la majorité des individus qui donnent des gifles quand même, au collège et au lycée. Mais ce qui est plus intéressant, parce que ça concerne davantage de monde, que c'est plus répandu, ce sont les velléités de punition physique. Et notamment pour les plus petits, enfin là je veux dire les plus petits, les sixièmes et les cinquièmes. Voilà, donc moi, enfin, dans le cadre de ma recherche, donc de ma thèse, où j'ai séjourné, si je puis dire, assez longtemps dans des collèges, il y a eu voilà, j'ai entendu de temps en temps des petites choses comme ça, de dire, ou de menacer un élève, de lui dire qu'il va recevoir une baffe, on ne lui donne pas, mais on le menace, ou on en parle avec des collègues en disant, mais ça c'est pas assez de baffe à la maison, et ça, il se comporte comme ça parce qu'il prend pas assez de baffe à la maison. Ou de promettre un coup de pied aux fesses, ou de. Voilà, y a quand même des, voilà, y a des velléités de punition physique, enfin en tout cas, il y a des allusions au corps et des allusions à la correction physique qui sont faites, et notamment, enfin, davantage vers les plus jeunes que vers les troisièmes. Et pour rester donc dans un entre-deux si amusant, il y a une scène voilà, qui me semble aussi enfin, intéressante. Là, on est vraiment dans un entre-deux, donc c'était pendant un temps d'études, enfin, temps d'études au passage qui est, comment dire, enfin, qui mériterait largement, largement, largement d'être repensé, parce que enfin, c'est les heures d'études au collège, c'est vraiment terrible, enfin, de mon point de vue. Hein, alors là, pour le coup, on est vraiment dans la contention, on est vraiment dans le maintien de l'ordre, et on est peu dans la pédagogie. C'est très éprouvant pour le surveillant, qui a donc à faire taire 30 ou 50 élèves, et c'est pas agréable, et pas sympa, et pas propice au travail scolaire du tout pour les élèves. Enfin, c'est vraiment une épreuve de force, quoi. Le temps d'étude, enfin, ça a tous les aspects d'une cocotte minute. Ça, c'est bon. Enfin, y aurait beaucoup à en dire. Mais donc sur ce temps de l'étude, donc j'ai assisté. Alors celle qui surveillait, donc faisait fonction de surveillante, mais bon, avait un profil un petit peu atypique. Bon, enfin, je ne détaille pas, mais. Elle dit à un moment, bon, cette personne-là, davantage que la moyenne, je dirais, agissait beaucoup à base de cris et de menaces, donc vraiment, on l'entendait de loin. Mais donc, dit à un moment, moi, je me trouvais donc à quelques mètres pour autre chose, mais donc, dit à une collégienne, tu vas au coin, main sur la tête. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Alors, la collégienne. y est allée. Alors, elle y est allée sous les commentaires un peu goguenards des camarades. Elle-même a, comment dirais-je, enrichi la scène de commentaires goguenards aussi. Voilà. Mais c'est resté dans un entre-deux parce que, enfin, de mon point de vue, je crois qu'il n'y en aurait pas fallu beaucoup pour que ça devienne, la scène dégénère un peu parce que, je crois que l'élève elle-même, enfin, y est allée de l'ironie pour essayer de cadrer la scène dans le sens de son aspect le plus dérisoire, le plus grotesque. Enfin, un peu grotesque, un peu dérisoire, c'est un peu ça. Parce qu'en fait, la scène, elle est plus. Enfin, l'autorité qui s'exerce, je trouve, hein, est à la fois un peu dérisoire et un peu humiliante, quoi. Et voilà. Et quand la demande a été faite, tu vois au coin main sur la tête, celle qui le dit, elle n'était pas à 100% sérieuse, mais elle l'était à 90%, quoi, pour le dire comme ça. Voilà. Il y avait un peu de. Oui, c'est un peu bébête et ça se fait pas, et etc. C'est un peu pour un enfant. Mais enfin, je te demande quand même de le faire. Voilà. Donc là, c'est un exemple vraiment dérangeant parce qu'on est vraiment dans un entre-deux où, bon, voilà, c'est une autorité à la fois un peu, ouais, un peu dérisoire et un peu humiliante, quoi. Enfin, il me semble. Voilà donc pour cette, enfin, la communication non verbale. Alors bien sûr, si les corps, en quelque sorte, parlent de l'autorité déjà, bon, elle est loin d'être absente dans les esprits, donc c'est ce qu'on va voir. Il est beaucoup question, en fait, dans les établissements scolaires, les collèges et lycées, de l'autorité d'autrui. Je vais m'expliquer. Quand les chefs d'établissement, par exemple, s'adressent aux élèves, donc les rappels à l'ordre, ce genre de choses, bon, ils emploient la première personne. Ce qui est normal, puisqu'ils ne peuvent pas. S'ils en appellent au recteur, l'élève ne saura pas qui c'est, puis bon. Pour vraiment se dire que ça va très 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 mal, quoi. Mais voilà, donc le chef d'établissement, bien sûr, quand il va reprendre, enfin, quand il rappelle à l'ordre un élève, etc., il dit je, il peut pas dire autre chose. L'adjoint, à peu près de la même façon. Quand ces rappels à l'ordre émanent de personnel d'éducation, donc CPE ou assistant d'éducation, c'est-à-dire surveillant, le jeu est plutôt dominant, mais avec bien sûr un effet de hiérarchie, c'est-à-dire que le CPE, ça y est plus facile aussi de dire je, parce que sa propre autorité est plus forte. Et puis aussi, pour être, enfin, être mentalement, en cas de difficulté, il est plus à même, lui, il a plus d'autonomie pour traiter la question, si je puis dire. Voilà, donc le CPE le dit plus facilement. Et les surveillants, bien sûr, même s'ils disent je, ils sont davantage placés dans la nécessité d'évoquer, au moins dans le discours, d'invoquer dans le discours une autorité supérieure. Enfin, une autorité, oui, pas supérieure avec un grand S, hein, le cran au-dessus, quoi. Voilà, ils sont plus dans la nécessité de parler du CPE ou de parler de l'adjoint ou du chef d'établissement. C'est-à-dire, je reprends ma séquence de l'étude. Encore une fois, les conditions sont telles que vous assistez à 1 heure d'étude, enfin, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, c'est à peu près certain que le surveillant, mais encore une fois, il s'agit bien de conditions structurelles, hein, c'est à peu près certain que le surveillant va dire, bon, maintenant, virgule, le premier qui parle, le premier qui fait tomber ceci, etc., je l'envoie chez monsieur machin, je l'envoie chez madame machin. Il va se retrouver dans le bureau de monsieur bidule. C'est à peu près incontournable, quoi, voilà. Donc, bien sûr, il y a dans cet usage de la première personne singulier, dans la manière d'exercer l'autorité, donc on le voit, donc personnel de direction dit je, CPE le dit plutôt aussi, et surveillant le dit, mais avec des recours quand même plus fréquents à l'autorité au-dessus, ce qui se comprend. Mais ce rapport, cette adéquation-là, se vérifie plus du tout avec les enseignants, qui ont une autorité statutaire forte, mais qui externalisent beaucoup plus fortement les problèmes, c'est-à-dire qu'ils les repoussent. Je vais y revenir, mais je vais y revenir, mais on a par exemple, je pourrais citer des centaines d'exemples, mais une enseignante en lycée, une prof sans problème entre guillemets, enfin une prof rien de particulier, qui rapporte elle-même, et ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'elle l'expose sans le comme un fait tout à fait normal et banal. Qui expose donc auprès de l'adjoint d'un CPE, de collègues professeurs, etc., un incident donc avec un lycéen, disons, ombrageux, mais je connais un peu le lycée en question, et je connais un peu le lycéen en question, on n'est pas dans la menace, on n'est pas dans quelque chose de grave, hein, on est dans, en gros, il a râlé, quoi. Donc elle dit, je lui ai dit que sa copie était illisible, il s'est emporté, m'a mal répondu, donc mal répondu, donc il a râlé, je lui ai dit, ne me parle pas comme ça, je t'amène chez la proviseure adjointe. Voilà. Donc là, on est dans l'évocation, mais oui, il y a ce... Je le cite précisément, là je vous demande de me croire, hein. Je le cite précisément parce que l'exemple est parfaitement banal et caractéristique. Je ne vous cite pas l'exemple extraordinaire de ça. Je veux dire, là on est vraiment dans un mode de fonctionnement, dans un schéma de perception des choses et d'action, dirait Bourdieu, parfaitement banal. C'est-à-dire, il y a une situation de tension, bon, tu te tais ou tu vas chez le CPE, tu te tais ou tu vas chez le principal, tu te tais ou tu vas chez l'adjointe. Voilà, c'est le réflexe, enfin la manière de traiter la chose est banale, elle est comme ça. Et un autre exemple, donc je vais revenir après, mais un autre exemple qui est très intéressant aussi, donc là ça se passe en collège pour donner la parité. Donc une enseignante, alors là je la connais moins, mais j'ai assisté même à ses cours, parce qu'elle m'a gentiment autorisé à assister à ses cours, qui elle aussi, alors sans problème, qui tient la route, hein, pour employer une formule familière, mais qui dit, donc qui me dit dans le cadre d'un entretien, je lui fais passer un entretien, donc qui me dit d'abord, enfin à quelques minutes près, hein, qui dit d'abord, donc finalement, sur le ton du regret, donc dans ce collège, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui fait peur. Je trouve que le gamin, quand même, doit pressentir le CPE comme c'est pas bon d'aller dans son bureau, etc. Et que si je me retrouve chez le principal, eh ben c'est pas bon du tout, je vais pas avoir envie d'y aller. Bon, voilà, donc qui fait ce reproche-là, qui émet cette critique-là. Et très peu de temps après, qui a cette réflexivité intéressante, qui dit, bon, c'est vrai que même moi, bon, ben allez, tu vas chez Monsieur Dubreuil, et puis voilà. Alors, Monsieur Dubreuil, c'est le principal. Hein. Parlant de situation de classe où un élève, il se passe quelque chose. Bon, allez, tu vas chez Monsieur Dubreuil, donc tu sors de cours. Et cet enseignant, donc, il dit, alors que bon, on ne devrait pas déranger le principal pour des broutilles. Oui. Non, mais là, pour le coup, enfin, je veux dire, c'est vraiment... Il y a vraiment cet effort de flexibilité qui est tout à fait intéressant. C'est qu'elle pourrait ne pas le dire. C'est plus facile de ne pas le dire. C'est plus facile de se mettre à l'abri. Donc là, elle a cette réflexivité qui est intéressante. C'est-à-dire qu'elle le dit. Et la même personne. Et à 3 minutes d'intervalle, donc elle dit, il faut qu'il fasse peur, il faut qu'il... Bon, etc. Et elle dit après... parce que là encore, je crois qu'on est même... C'est un des principes de la sociologie ou de l'anthropologie, c'est-à-dire d'arriver à s'étonner de situations, de rester étonné de choses qui se produisent, puisque rien n'est naturel. Là, je crois que nous tous, enfin, nous sommes tellement enfin, marqués, je veux dire, on a tous en commun d'avoir été à l'école, et il y a des tas de choses qu'on trouve normales, parce qu'on les a connues, ça s'est passé comme ça. Mais je veux dire, quand on regarde froidement les choses, enfin, broutille, elle emploie le mot, l'enseignante. C'est-à-dire qu'en fait, enfin, on est dans une situation, il se passe en classe ce qu'elle appelle une broutille. Donc, non seulement elle exclut l'élève de cours, elle exclut l'élève de cours. Normalement, hein, c'est pas prévu, hein, c'est pour les situations graves et exceptionnelles. Donc, elle exclut de cours. Et elle exclut de cours et elle l'envoie chez le principal, c'est-à-dire chez la plus haute autorité du point de vue de l'élève. On est moins étonné qu'on ne le serait si on n'était pas, si nous-mêmes n'avions pas été formés sur ce modèle-là. Mais encore une fois, la situation quand même n'est pas anodine, quoi. Et là encore, je la cite parce que elle est tout sauf exceptionnelle. Enfin, cette logique-là, elle est activée très 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 fréquemment. Et d'ailleurs, voilà, je poursuis un peu mon propos, mais si vous, enfin, vous amusez, c'est pas très amusant, mais si vous demandez dans un établissement. Si vous demandez à tous les personnels, donc sauf ceux que je vais citer, mais vous demandez à des personnels dans l'établissement qui sont les représentants de l'autorité. Bon, la réponse, vous l'avez, on va vous dire, les représentants de l'autorité, c'est le chef d'établissement, l'adjoint, CPE, éventuellement surveillant. Voilà, pas plus, jamais. Les représentants de l'autorité, on va vous répondre ça. Alors évidemment, de quelle autorité parle-t-on? Enfin, je vais y revenir un petit peu plus tard, mais tout le monde, enfin toutes les catégories personnelles, à part celle-ci, s'entendent pour considérer que les responsables de l'autorité sont cette catégorie de personnel. Donc je vais y revenir un petit peu après, mais je cite encore deux exemples bon, qui sont un peu amusants et un peu révélateurs. Et on retrouve on retrouve une logique physique et on retrouve une logique de communication non verbale. Donc j'étais dans un, enfin j'en ai été témoin là parce que je parlais avec la CPE dans son bureau. On frappe à la porte, un professeur donc ouvre la porte. La CPE l'invite à rentrer, elle dit oui, je ne sais plus le prénom, mais rentre, assis-toi. Il rentre pas. Le prof reste sur le pas de la porte, et il porte ses bras comme ça sur l'encadrement, donc il est comme ça. Enfin, il se tient, il ne met pas un pied dans le bureau, hein. Il est sur le pas de la porte, il est comme ça. Et donc il évoque, enfin il dénonce le cas d'un élève et d'un mauvais comportement d'élève, donc il se sur un ton assez péremptoire, assez agacé. Donc il évoque un élève, il dit, il a une dizaine d'observations, un peu moins, qui ne sont pas signées, donc observations écrites sur le carnet à faire signer par les parents. Donc il expose quelques mauvais comportements. Il dit à la CPE, tu diras à Descamps de le convoquer. Donc Descamps, c'est l'adjoint, c'est pas le vrai nom, bien sûr, je dis jamais les vrais noms, mais si tu diras à Descamps de le convoquer, il referme la porte et il s'en va. Voilà. Donc en fait, voilà, on est vraiment dans un échange éducatif intéressant. Hein. Non, je retire cette remarque, mais... Donc bien sûr, d'une part, si on essaie de revoir la scène, de l'analyser un peu, on se dit, mais enfin, qu'est-ce qui se passe quand il se passe ça? Donc du point de vue de la communication non-verbale, enfin, les indices, on ne peut pas ne pas les remarquer. Alors tout à l'heure, on parlait, vous voyez, de se mettre côte à côte, qui veut dire quelque chose, ou autour d'une table, ça veut dire quelque chose. Se mettre de part et d'autre d'un bureau, ça veut dire quelque chose. Ne pas rentrer dans la pièce et dire à distance, tu feras ça, et claquer la porte et repartir, ça veut dire quelque chose, effectivement. C'est-à-dire, ça veut dire, voilà, le problème que je viens déposer dans le bureau, c'est votre problème, et je vous somme de le régler, quoi. Alors, on pourrait même s'amuser, enfin, on aurait l'image, ouais, enfin, on imagine un peu une poubelle en papier, et puis on la vide, enfin, attention à ne pas s'en mettre sur les pieds, et on n'avance pas les pieds, enfin, il vient, il fait un peu ça, quoi, le prof. Du point de vue de la communication non verbale, enfin, ça fait beaucoup penser à ça, quoi. Et pour le coup aussi, on peut se dire, il y a bien un exercice de l'autorité. Il y a bien un exercice de l'autorité, mais ce n'est pas tellement une autorité éducative en direction de l'élève. Ce qui s'est exercé là, c'est une autorité statutaire ou une autorité établie, une autorité d'État, avec un E majuscule ou minuscule, qui somme la CPE de sommer l'adjoint, de convoquer l'élève, de le réprimander, etc., etc. Et en l'absence du prof, bien sûr, hein, je le précise, mais la convocation, bien évidemment, ne prévoit pas la présence de l'enseignant. Hein. Voilà, mais donc, il y a une autorité qui s'exerce, mais c'est pas une autorité éducative, quoi. Et un autre exemple, donc là aussi je prends le lycée pour équilibrer, si l'on peut dire, mais l'exemple, encore une fois, vous êtes obligé de vous en remettre à ma bonne foi, mais je vous assure que les exemples sont représentatifs. Après, je choisis dedans des petits aspects amusants pour les rendre plus facilement communicables, mais la trame est tout à fait représentative, et la trame est vraiment majoritaire. Donc le deuxième exemple qui a sa petite touche un petit peu amusante, c'est une prof de lycée qui appelle le bureau de la vie scolaire, donc il y a une surveillante, et qui lui dit, qui signale, j'y reviendrai mais le mot est important, qui signale, donc qu'elle vient de voir devant le portail deux élèves de première qui étaient en train de fumer alors qu'ils devraient être en cours de physique à ce moment-là. Donc, alors elle dit les noms, alors la surveillante note les noms, la surveillante ne les connaît pas, et donc elle note les noms, la classe, etc. Bon, et avant de raccrocher, la surveillante lui dit, mais vous leur avez dit quelque chose? Et la prof dit, non, j'étais en vélo et je sortais du lycée. Alors, bon, j'étais en vélo, je sortais du lycée, donc elle était effectivement en vélo, hein, mais le lycée est configuré de telle façon qu'il n'y a pas une voie vélo, enfin je veux dire par là que vous voyez, c'est comme tous les lycées, vous avez un portail et vous avez des groupes de personnes diffuses, qui font qu'on rentre au pas et on sort au pas, parce qu'il y a des gens devant le portail partout. Donc ce qui veut dire que la prof en question, elle est passée devant les élèves à 3 km/h, quoi, quelque chose comme ça. Le fait qu'elle sache que ces élèves-là devaient être en cours de physique, disons à ce moment-là, ben, c'est parce qu'elle est prof principale de la classe. Voilà. Et donc elle est prof référente de la classe. Et je dois préciser encore, parce que tout compte dans ce truc-là. Et en plus, là encore, je parle d'un lycée que je connais bien, et les élèves, je les connais bien, c'est pas mes neveux, mais enfin, je les connais bien, oui, je vois comment ils fonctionnent, je les connais. Bon, les élèves en question, je peux vous dire que... Elle risquait pas partir en week-end, parce que c'était un vendredi pour l'anecdote, mais elle risquait pas partir en week-end avec, vous voyez, une scène douloureuse ou avec quelque chose, un clash, un conflit, un rapport à faire, un conseil de discipline, etc. Enfin, étant donné le profil des élèves en question, encore une fois, dont elle est prof principale, qu'elle connaît les élèves en question, mais vraiment le plus grave qu'elle risquait, ça aurait été qu'ils disent, Ah oui, mais on est allé à l'infirmerie, il n'y avait personne. Bon, première hypothèse, ou alors qu'ils baissent la tête et qu'ils disent rien et qu'ils repartent en cours. Véritablement, avec le profil des élèves, ce qu'elle risquait, c'était ça. Bon, mais donc là encore, quand on essaie quand on essaie d'analyser la scène, de se dire, donc elle est prof principale, elle passe à 2 mètres des élèves, elle les voit, elle tourne la tête, elle s'en va, elle s'arrête, elle prend son téléphone et elle dit, je vous signale qu'il y a ces 2 élèves-là. Mais là encore, finalement, elle dérobe à sa propre autorité éducative ce qu'elle transforme en autorité statutaire, quoi, en autorité établie, nobiliaire à la limite, disons ce que je peux appeler l'autorité qui tourne la tête mais qui montre du doigt, quoi. Voilà. Et de façon courtoise, parce que le ton était courtois, mais de façon courtoise, donc là on est dans la modalité de forme, mais bon, le professeur précédent, donc lui, celui qui était sur l'encadrement de la porte, lui n'était pas courtois, mais là, la prof, elle est courtoise, elle le demande sur le ton de la courtoisie. Mais la surveillante n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'elle est mise en situation de devoir agir. C'est-à-dire qu'à charge pour la surveillante de traiter le problème, puisqu'elle vient d'en être informée, on l'y a signalé, entre guillemets. Donc, c'est pas le problème de la prof, ça devient le problème de la surveillante, quoi. Et ce mot signalé, voilà, avant de passer à une autre partie, mais il me semble que le terme signalé, bien sûr, enfin, on le comprend, il n'est pas anodin. Parce qu'on peut dire finalement, bon, dans quelle situation on signale? Bon, on signale parce qu'on n'est pas capable de traiter une question, on n'a pas la compétence, on ne peut pas, donc on signale. Ou on signale parce qu'on n'a pas la légitimité ou l'autorité pour la traiter. Ou alors on signale parce qu'on considère le problème comme inférieur, trivial, pas digne de soi, et qu'on préfère gentiment s'en débarrasser ou se défausser. Et pour le coup, là, du point de vue des élèves, enfin, les élèves de collège et de lycée ont beaucoup d'occasions de considérer, de supposer que ce qu'ils font, enfin une partie de ce qu'ils font, est traité, enfin sont traités comme des problèmes inférieurs qui relèvent d'une autorité inférieure. Et pour le coup, oui, pour le coup, voilà, pour terminer sur la partie donc de l'autorité, bon, je vous rassure, j'en ai bientôt fini. Sur la partie donc de l'autorité à l'école, bon, les dysfonctionnements, pour le dire comme ça, je ne sais pas si c'est le bon terme, enfin, il y a d'autres difficultés qui peuvent se produire que celles de l'ordre de la substitution d'autorité, comme je l'ai évoqué. Il y a évidemment des abus d'autorité ou des abus de pouvoir. Voilà. Donc, on a, enfin, là c'est tout à fait arbitraire, je vais choisir un petit exemple, mais on a ce qui relève, enfin, Bernard Charlot, par exemple, sociologue, appelle ça l'injurier poliment, ce qui est de l'ordre de l'injure polie. C'est-à-dire ce qui est dit par un adulte avec un langage convenable, enfin un langage de classe moyenne, mais qui contient un message qui lui est insultant, mais il n'est pas exprimé sous la forme de la grossièreté. C'est-à-dire que par exemple, enfin, il y a beaucoup de cas possibles, hein, mais là, pour le coup, là on n'est pas dans, là c'est n'importe quel personnel, hein, bien sûr. Voyez, par exemple, la phrase, si tes parents t'ont pas appris les règles, moi je vais te les expliquer. Voilà, en disant ça, l'adulte, s'il y a un problème, je veux dire, si l'élève lui répond mal et si ça a des conséquences, peut dire, moi je peux écrire, enfin c'est pas, il n'y a pas de grossièreté dedans. Il n'y a pas de grossièreté dedans, mais seulement le fait de dire ça, c'est-à-dire qu'on dit quoi? On dit tes parents sont incompétents, tes parents sont négligents, tes parents se moquent de toi, et le résultat je l'ai devant moi, c'est-à-dire tu es quelqu'un de inadapté, mal élevé, qui possède pas les codes, enfin tu es un peu indigne de notre beau milieu, quoi. Voilà, je dis cette phrase parce que je l'ai entendue, mais on la connaît tous, hein. Elle peut échapper même à quelqu'un de tout à fait bienveillant par ailleurs, hein. Je vous dis encore une fois, moi, mon propos n'est pas du tout de cibler des logiques individuelles qui seraient malveillantes, hein. C'est pas le cas, mais voilà, là on est dans un abus, mais qui est d'autant plus dangereux qu'il n'est pas forcément lucide ou pas forcément bien perçu. Parce qu'à contrario, bien sûr, si l'élève à qui on dit, si tes parents t'ont pas expliqué les règles, moi je vais te les expliquer, si l'élève réplique, il va répliquer que son langage d'ado. Bon, il aura un conseil de discipline parce qu'il aura traité son interlocuteur de connard. Enfin, je m'excuse, hein, pour l'incartade verbale. Mais bon, voilà, il va se passer ça. Et bon, voilà, donc là on est dans un abus d'autorité, abus de pouvoir, mais qui pose bien sûr une question récurrente, et dont on ne peut pas se débarrasser, mais de la dissymétrie entre la parole de l'un et la parole de l'autre. Mais dissymétrie qu'on est obligé de conserver. Parce qu'on ne peut pas régler ou prétendre dépasser cette question-là en disant, mais c'est vrai qu'après tout, s'il y a un incident, l'adulte, lui, il est toujours jugé parti. C'est-à-dire que c'est lui qui va faire le rapport. C'est-à-dire qu'il y a un incident avec un élève et un adulte, c'est l'adulte qui fait le rapport. Mais oui, mais ben c'est bête, mais c'est comme le policier assermenté, l'automobiliste qui ne l'est pas, quoi. C'est-à-dire que si, quand on grille un feu rouge, on peut dire ma parole contre la vôtre, vous dites que je l'ai grillé, moi je dis non, au revoir monsieur, le système serait dur à tenir, quoi. Et là, bon, et pour une raison instrumentale, même pour une raison éducative, personne ne va réclamer que la parole de l'élève soit traitée à égalité avec celle de l'adulte, parce que, enfin, c'est pas tellement tenable. Sinon, il faut bien partir du présupposé que les adultes sont des gens raisonnables, avec un peu un souci éducatif, une crédibilité, un rôle, etc., et une responsabilité, et que leur parole, voilà, la hiérarchie existe, elle n'a pas disparu, très loin de là. Bon, l'adulte a une parole, je sais pas, éminente, mais enfin, en tout cas, dont le poids est supérieur à celui du jeune, quoi. Mais malgré tout, on a beau avoir dit ça aussi, il y a pas mal de enfin, il y a des situations où on est un peu embêté parce que, oui, on va donner raison à l'adulte, mais on sait que, à la différence de pas mal de ses collègues, celui-là, il a dû être particulièrement maladroit avec l'élève et que l'élève va ressentir comme une injustice qu'il soit sanctionné alors que, bon, ça ne sert à rien pour l'adulte. Mais donc, bon, encore une fois, voilà, on peut pas. Les choses fonctionnent comme ça. L'adulte a une parole d'autorité, pour le coup, et on n'a pas de raison de vouloir sortir de ce schéma-là. Bon, en revanche, on pourrait se dire qu'au niveau de la formation des personnels sur les situations éducatives, sur la relation éducative, bon, il y aurait sûrement un peu de choses à faire, ce serait pas mal. Et puis surtout, dans le fonctionnement réel des établissements scolaires, du secondaire, bon. Le résultat à atteindre, alors, mais pour l'atteindre, je suis persuadé qu'on ne le verra pas de notre vivant, que tous les personnels exercent une autorité éducative. Une autorité éducative, voilà. Mais chacun a son niveau de responsabilité, hein, mais le résultat qui serait intéressant d'atteindre, ce serait celui-là, quoi. Voilà, alors pour se consoler, on peut se dire malgré tout, bon, en même temps. Entre la réalité et ce résultat, il y a la marge de progression est quand même tellement grande que finalement tout ce qu'on peut faire comme petit pas, bon, on peut dire que c'est pas mal et on peut dire qu'il y en a à faire. Que voilà, on a le choix, quoi. Dans les petits pas à faire, on a le choix parce que la distance qui nous sépare de la réalité à l'idéal éducatif, bon, est quand même pas négligeable. Voilà, je vais arrêter mes bavardages. Donc je conclue. J'essaie de conclure mon petit topo donc sur la question de l'autorité sur les jeunes. En disant et en rappelant quand même que finalement, là, je n'ai jamais fait que parler d'une petite partie de l'autorité, hein, puisque l'autorité est une notion très vaste, hein, qui s'exerce partout d'ailleurs. Donc je n'ai parlé que d'une petite partie de l'autorité, celle des adultes sur les jeunes, et en plus je n'en ai parlé que du point de vue des adultes. C'est-à-dire, je n'ai pas rapporté des positions, des points de vue d'ados, hein. Donc voilà, ce que j'ai fait est tout à fait partiel. D'autre part, alors sur le plan familial, bon, j'ai beaucoup insisté sur les problèmes d'autorité, sur les manières dont on se soustrait à sa propre autorité, etc. Enfin, je ne voudrais pas avoir laissé penser que que la pratique de parents était devenue intenable, schizophrénique, épouvantable, etc. C'est fatigant, pour reprendre ce terme-là, il me semble, enfin, objectivement, quoi, la nécessité de devoir argumenter beaucoup est fatigante. Mais en même temps, alors, ça m'embête un peu parce que je vais avoir l'air d'être prescriptif ou normatif ou moraliste, mais en même temps, si, encore une fois, on se défausse vers autrui, enfin, si on choisit de s'amputer soi-même d'une partie de l'autorité, de la partie ferme, disons entre guillemets, de l'autorité, on ampute son autorité en général. Enfin, l'autorité est quand même un tout. Donc, en choisissant, en croyant se garder la part belle, la part douce et ronronnante, et en renvoyant vers l'autre, la part un peu éprouvante, tout se paye. Donc, on ampute quand même sa propre autorité avec un grand A. Et en plus, on construit un schéma dont les résultats ne seront pas ce qu'on veut d'un point de vue éducatif pour son enfant. Mais encore une fois, là, je m'agace un peu moi-même parce que j'ai l'air tout à fait moraliste et c'est pas mon propos. Une chose aussi, quand même, qui me semble utile de rappeler, enfin, d'ailleurs, je ne fais que répéter ce que d'autres sociologues ont dit, mais c'est que Enfin, on peut avoir la tentation, l'illusion de croire que l'autorité donc moderne des parents sur les enfants, même si elle est négociée, donc elle est en partie effectivement une autorité négociée, c'est pour ça qu'elle est fatigante, hein, qu'elle est un peu éprouvante, mais elle n'est pas une autorité carencée ou décadente, hein. Enfin, c'est une nouvelle forme d'autorité. Voilà, c'est pas la fin de l'autorité, ou c'est pas une autorité décadente, pour le dire comme ça. Alors d'abord, je cite de nouveau François de Saint-Guy, donc sociologue, parce que les parents continuent de fixer des cadres. Alors, donc de Saint-Guy dit par exemple, donc, les enfants choisissent très rarement l'heure de coucher, les enfants respectent les rythmes de la vie familiale, notamment les repas, et ils font l'objet d'une très grande exigence scolaire. Oui, l'importance de l'école en France est considérable, donc il y a quand même une pression, pour parler comme les ados eux-mêmes, une pression très forte par rapport à l'école. Donc bon, les parents quand même continuent de fixer des cadres, et puis la négociation elle-même s'inscrit dans un cadre. Enfin, même si c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais enfin, ce sont les parents qui construisent à peu près en bricolant, en ajustant comme on le peut. Mais enfin, les parents sont avant, enfin, préexistent à l'enfant. Donc la négociation s'inscrit dans un cadre dont il revient aux parents de dessiner, enfin, à peu près, quoi, de dessiner à peu près les contours. Et cette négociation, même si elle est un peu éprouvante, bon, malgré tout, elle permet aussi aux enfants d'apprendre à argumenter, et apprendre à argumenter, c'est bon pour l'école, mais c'est bon en soi. Enfin, c'est pas mauvais, quoi, intellectuellement. Et les deux derniers éléments qu'on puisse échanger, donc pour conclure mon propos, donc pour revenir, bon, cette histoire de fatigue ou de difficulté parfois à répondre aux objections et aux négociations. Donc on la retrouve bien sûr dans les établissements scolaires, et on la retrouve assez souvent sous la forme, par une phrase, ses caractéristiques qui est il n'y a que vous qui demandez ceci, ou il n'y a que vous qui acceptez pas cela. Voilà, ça c'est dans les établissements scolaires, les élèves sont pas tout à fait des gens insensés, donc cette phrase-là a un certain point, un certain impact. Mais elle l'a d'autant plus que les collèges et les lycées, en réalité, voilà, la fatigue, enfin, d'avoir exercé l'autorité, c'est peut-être la seule chose qu'ils partagent, il y a des niveaux très différents. Mais si la phrase il n'y a que vous qui, elle marche, si je puis dire, en collège et lycée, ben, elle marche formidablement, parce que s'il y a une structure éducative où l'unité est faible, c'est bien dans les collèges et lycées. Je veux dire que dans chaque catégorie déjà, les acteurs ont des façons de voir les choses différentes, et d'une catégorie à l'autre aussi. Donc les élèves, quelque part, je dirais presque, ont raison. Enfin, ils prennent pari, enfin, en disant il n'y a que vous qui, enfin, ils ne manqueront pas de vous dire, vous voyez, là vous me demandez ça, mais le proviseur a passé 2 minutes, il m'a rien dit. Bon, sous-entendu, vous êtes un peu chiant, quoi. Enfin, je ne vais pas vous le dire comme ça, mais voilà. Enfin, il y a d'autres exemples, celui-là me vient à l'esprit, mais oui. Et on sait très bien que d'un cours à l'autre, et les profs ont des exigences différentes, et encore une fois, d'une catégorie d'acteurs à l'autre, enfin, la cohérence et l'unité éducative du secondaire, elle est très faible. Elle est structurellement très 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 faible, quoi. On n'est pas loin, de mon point de vue, d'avoir. Enfin, on a une autorité fractionnée dans le secondaire, comme on a, je crois, aussi une éducation fractionnée dans les collèges et dans les lycées. Cette dimension-là me semble plus importante, encore une fois, plus pertinente que la tentation de répondre au thème de l'autorité, ou d'immédiatement de dire ah oui, l'autorité, ah oui, ben monsieur Untel, oui, il tient pas sa classe, il est pas bon, ou tel chef d'établissement, il est pas bon. On peut toujours parler des gens, bien sûr, hein, mais enfin, si on, pour pas se priver quand même d'éléments d'analyse, enfin, il me semble plus intéressant de considérer comment l'organisation, les dispositifs existent, avant de considérer comment les gens à l'intérieur le font vivre, quoi. Donc plutôt que de pointer des manques d'autorité d'un tel ou de tel autre, enfin, cette idée que l'éducation et l'autorité sont fractionnées dans les établissements secondaires, enfin, il me semble peut-être plus éclairante, parce que quand même. Une spécificité, même si encore une fois elle nous étonne moins parce qu'on l'a vécu, mais une spécificité de l'enseignement secondaire parmi d'autres, c'est que les premiers référents des élèves, donc les profs, les premiers référents des élèves, tous les termes comptent, trouvent intérêt à fuir leur propre autorité éducative. Enfin, je dis bien, trouvent intérêt à fuir leur propre autorité éducative en se crispant sur l'autorité statutaire, quoi. Et cette autorité statutaire, encore une fois, trouve intérêt à fuir. Donc l'autorité statutaire, ben, je dirais pas qu'elle abolit la responsabilité personnelle, mais enfin, c'est une autorité immobile, quoi. C'est l'autorité du sphinx. Enfin, c'est celle qui surplombe et qui regarde et qui signale. Mais donc, en fait, elle limite quand même beaucoup la responsabilité personnelle. Elle permet de se dire, c'est pas moi. Elle signale aussi, elle invite à signaler les mauvais comportements. Enfin, j'ai essayé de parler de cette idée de signaler. Elle permet aussi de dénoncer ceux à qui on a signalé les mauvais comportements, mais à qui on reproche de ne pas les avoir réprimandés assez fortement. Et cette autorité aussi, disons, elle est assez forte et assez folle pour se maintenir. Pour des raisons, mais là je le dis comme une pirouette, mais si elle se maintient, c'est pas une question climatique, hein, c'est pas une question, c'est pas une question abstraite. Hein. Il y a des éléments solides et durables et structurels qui font que ça se maintient comme ça. Voilà, c'est peut-être pas tout à fait satisfaisant. Enfin voilà, donc pour conclure ce que j'essaie de dire, voilà, il me semble que comme le pouvoir sans contre-pouvoir, il me semble que l'autorité aveugle est un peu dangereuse et que faute de mieux, on peut essayer d'être vigilant. Je n'ai pas beaucoup plus à proposer. Voilà, je vous remercie.